les jardinières.
Salut à tous, bienvenue dans les jardinières et ce matin je suis accompagnée de ma collègue jardinière Sarah, bonjour.
Bonjour Stéphanie, ce week-end il y a comme un air d'été dans la région, entre verres de limonade glacée, séances de bronzage et pieds dans le lac, vous pourriez avoir la furieuse envie de jardiner et ça tombe bien, on profite des premiers rayons de soleil pour parler jardinage en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy, bonjour Fabrice.
Bonjour.
Nous sommes le 26 mai 2018. Les saints de glace semblent définitivement derrière nous et c'est tant mieux. Les températures sont remontées en flèche. Vos fleurs ont besoin d'eau et votre gazon d'une bonne tonte. Que faire en ce moment au jardin? Que peut-on planter à cette période? Quelles sont les précautions à prendre en cas de hausse des températures? On vous donne plein de conseils et on répond évidemment à toutes vos questions avec Fabrice Rondet.
Des questions que vous pouvez lui poser en direct grâce à plusieurs moyens. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Amateur de jardinage ou véritable passionné, Fabrice Rondet vous répondra personnellement. Et si votre voix est encore un peu éraillée de si bon matin, vous pouvez opter pour le SMS en envoyant le mot jardin, un espace suivi de votre question, le tout au 939. Il existe également le formulaire internet que vous trouverez sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières. Et si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre problème afin que Fabrice Rondet puisse développer sa réponse au maximum.
Et bien je crois que tout est dit, les jardinières, c'est parti.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
La semaine dernière, nous avions reçu une question d'Elisabeth de Basse-Cour que nous n'avions pas eu le temps de traiter. Est-ce que je peux planter des courges ou des potirons dans des grands pots avec du terreau que les communes mettent à disposition, Fabrice?
Alors, dans les grands pots, il faut déjà voir quel type de pot il s'agit. Moi, ce que j'ai eu l'occasion de voir dans une commune il y a peu de temps, c'est des grands pots. C'était plutôt un assemblage de palettes avec une surface qui devait correspondre à peu près à 1,5 m, voire peut-être même un petit peu plus. Mm-hmm. Donc là, ça peut aller pour des courges, des potirons, parce qu'ils peuvent s'étaler. Si c'est juste un grand pot, après, il y a le feuillage qui risque, les tiges qui risquent de traîner un peu par terre. Ça dépend de la place qui est à côté, parce que c'est des plantes qui prennent vite beaucoup d'espace. Après, si c'est plutôt au niveau des cucurbitacées, des courgettes, des choses comme ça, ça demande quand même aussi pas loin d'un petit mètre carré de développement. Donc il faut qu'ils puissent se poser, s'appuyer au sol pour qu'il n'y ait pas de casse. Donc moi, je mettrai en tout cas 1 m² à disposition.
Nous avions également reçu un SMS d'Alain de Kourou qui se posait la question suivante. J'ai un érable rouge nain depuis 5 ans qui devient toujours plus grand et je voulais savoir quand le tailler.
Alors, ces petits érables, on peut les tailler d'une façon assez régulière si on ne fait pas des coupes trop importantes pour les affaiblir. Mais si on veut, par exemple, les former en parasol ou délimiter la hauteur pour pas qu'il y ait des branches kirbiques, comme on dit, ou alors sur le couronnement, on peut faire une taille un petit peu tout le temps. Comme ça, la plante va pas souffrir. C'est pas une taille comme on va faire en plein hiver non plus. Donc, c'est juste une taille d'entretien.
Et par rapport à la taille de l'érable nain, c'est quoi la différence avec un érable normal? C'est vraiment un petit... il est très très petit ou c'est quelque chose qu'on peut mettre en pot ou pas?
Oui, en général, quand on parle de l'érable nain, on a une plante qui va monter à peu près à 1 m de hauteur pour à peu près 1 m à 1 m 50 de diamètre. Et puis l'érable rouge du Japon qu'on voit habituellement dans nos jardins, on a un arbre qui va se situer selon deux variétés entre... Puis le type de terrain, l'exposition chez nous, entre 2-3 mètres de hauteur jusqu'à 4-5 mètres de hauteur. Donc, c'est deux plantes. Il y a un qui a un couronnement plutôt étalé, bas, à moins à 1 mètre, 1 m 20, puis l'autre qui va chercher avec comme un petit arbuste beaucoup plus puissant. Mais tous les deux ont un développement au niveau des branches qui est assez lent, qui est assez gracile. Mmh. Donc, c'est deux plantes presque incontournables de nos jardins modernes qu'on fait.
Denis, excusez-moi Sarah, allez-y.
J'avais une question aussi pour l'érable rouge nain. À quel moment on doit savoir qu'on doit arrêter de tailler et pas trop le tailler cet érable?
Disons qu'on peut le tailler, comme je disais avant, c'est un taille d'entretien. Si c'est des petites branches, si on revient sur des petites longueurs comme ça, juste pour avoir, si on veut faire un style parasol, un style bonsaï, un truc comme ça, on peut le tailler un petit peu tout le long dans l'année à partir du moment donné où c'est qu'on ne fait pas des grosses coupes, c'est qu'on coupe 5-10 cm. C'est juste des pincements pour le contenir dans une forme bien précise. Mais ce qu'on évite en général, c'est les périodes où c'est que ça gèle. Et puis les périodes où c'est qu'on a des fortes chaleurs qui peuvent un peu le stresser, un petit peu l'affaiblir. Mais après, autrement, pour la vraie taille de formation, c'est qu'on va faire une grosse suppression de branches pour lui donner une forme bien précise. Ça, on le fait plutôt pendant le repos végétatif.
On va passer à la question de Denis. Denis qui a une rocaille envahie de liserons dans son jardin et il nous demande comment s'en débarrasser.
Alors le liseron, c'est vrai que c'est un problème qui revient assez souvent. Le problème de cette plante, c'est qu'elle a un puissant système racinaire. Donc arracher, bien souvent ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à extraire une partie de la racine, mais il y a toujours une partie qui reste en terre et qui va redémarrer un petit peu plus tard. Donc l'idéal, ce serait de laisser pousser la plante et puis de mettre une noisette d'un herbicide sélectif exprès pour liseron sur chaque feuille pour arriver à véhiculer justement du produit jusqu'au bout de cette racine pour essayer de le faire disparaître. Donc il faut en tout cas pas fragmenter par exemple en bêchant, en sarclant, il faudrait en tout cas pas fragmenter cette racine parce que on peut à partir de plusieurs fragments faire repartir à chaque fois une nouvelle pousse de liseron. Donc aller chercher la racine le plus loin possible dans le terrain et puis autrement c'est ça, autrement désherber régulièrement.
Madeleine de Corgémont nous a écrit « Nous avons un saule pleureur de plusieurs mètres de haut sur notre terrain. Il est magnifique et nous y tenons beaucoup. Ses branches sont bien fournies et les feuilles sont vertes. Mais par contre, le tronc est très creusé et parfois le bois coule à l'intérieur du tronc. Savez-vous s'il s'agit d'une maladie et comment je peux sauver ce saule ?»
Alors, s'il fait plusieurs mètres de hauteur, ça veut dire qu'on a une plante quand même qui a plusieurs années de plantation aussi. Si on a un tronc creusé, en général, ça veut dire qu'on a peut-être une taille qui a été effectuée il y a quelques années assez sévère et qu'on a peut-être une mauvaise cicatrisation qui s'est faite et qu'une nécrose s'est formée. À partir de là, devient ces parties de branches ou de troncs après qui se creusent. Ce qu'on constate dedans, c'est qu'on a comme une espèce de terreau, un humus qui se forme avec de l'eau dedans. Je pense que c'est plutôt... Je n'ai pas bien compris la question quand on dit qu'il y a le tronc qui coule dedans, je crois que vous avez dit. Donc je me demande si je ne voulais pas plutôt dire qu'il y avait de l'eau qui coulait dedans et puis après qui remplissait cette nécrose. Donc ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est faire venir un professionnel pour regarder ça, parce que selon l'âge, selon le type de nécrose qu'on a, ce sera assez important. Mais ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, c'est bien nettoyer toutes les parties qui sont atteintes, enlever tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui est au niveau du bois pas cicatrisé, ce qui n'est pas dur, donc vraiment assainir ça. Et puis après, il faudrait regarder avec ce professionnel les différents types de possibilités qui s'offrent à cette personne par rapport à l'importance de la nécrose, parce qu'elles ne seront pas traitées toutes de la même façon.
Est-ce que ce serait possible qu'il se trouve à un endroit qui ne lui convient pas, peut-être trop à l'étroit, je ne sais pas.
Alors s'il est trop à l'étroit, effectivement, on devra avoir une taille plus agressive. Après, ce qui est à redouter, s'il est plus à l'étroit aussi, c'est qu'on a un système racinaire qui peut nous échapper, parce que le saule pleureur, c'est quand même une plante avec un système racinaire assez puissant. Donc effectivement, il faut le contenir. Et puis, si on doit faire des tailles agressives, qu'on ne laisse pas des tire-sèves, mais qu'on revient sur des grosses sections, là, on peut former ces nécroses beaucoup plus facilement, effectivement. Ce qu'il faudrait faire, c'est une bonne taille avec laisser des tire-sèves pour que la végétation se reforme directement, qu'on ait une bonne cicatrisation, faire ça dans les règles de l'art, en fait.
Et même s'il est assez grand, pourrait le déplacer ?
Alors non, enfin, assez grand, ça dépend. On a des jeunes arbres qui sont assez grands qu'on peut encore transplanter. En général, on parle de 3-4 ans pour les transplanter. Après, il faut employer des gros moyens et puis c'est vite très difficile. Mais à partir d'un certain âge, on ne peut plus, parce que l'enracinement nous échappe et puis la transplantation, justement, il faut prélever un maximum de racines avec une motte et puis les moyens de levage deviennent problématiques dans un jardin.
Merci Fabrice Rondet, vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour poser toutes vos questions à Fabrice. Il suffit de prendre votre téléphone et de composer le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Il y a aussi le SMS au 939, vous tapez le mot jardin, un espace, puis votre question. Et il existe également le formulaire internet sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières.
Les jardinières.
Lucienne Debaule a eu la brillante idée de composer le 0901 70 20 20. Elle est avec nous en ligne et elle a une question pour vous, Fabrice. Bonjour, Lucienne.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Écoutez, moi j'aimerais bien vous demander qu'est-ce que je pourrais prendre comme terre pour faire du repiquage ou bien des semis. Parce que dans le commerce, c'est toujours, il y a toujours du bois, il y a toujours des trucs, puis c'est tellement sec. Qu'est-ce que je peux prendre comme terre?
Alors écoutez, il y a un fournisseur dans la région qui a un bon petit terreau de semis vraiment de qualité que je trouve impeccable, qui fonctionne vraiment bien. C'est vous qui l'avez dit. Voilà, mais oui, il a un petit terreau de semis qui marche vraiment bien. Moi, je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises et puis ça fonctionne vraiment bien. Et puis après, autrement, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une bonne terre. Si vous avez la chance d'habiter une région où c'est que vous avez une bonne terre de jardin, puis vous pouvez rajouter un peu du terreau dedans pour l'alléger, pour que ce soit vraiment favorable à faire un semis fin et puis qu'il puisse garder, avoir une bonne rétention d'eau, qu'il soit drainant en même temps. Vous pouvez le faire vous-même, donc un peu de terre, un peu de terreau, un peu de sable, et puis vous avez quelque chose de léger, bonne rétention d'eau, drainant en même temps, c'est ça qu'il faut rechercher. Si vous voulez pas travailler avec un terreau de semis prêt à l'emploi que vous achèteriez dans un commerce.
Ouais, mais c'est vrai que quand on achète, il y a toujours des fils de bois, tout ça, et puis c'est très sec. Bref, et puis comme j'ai fait donc des lupins.
Oui.
Ce que j'ai fait cette année, l'année prochaine, hein, c'est juste. Hein.
Oui, en général, ça se développe un petit peu après. Ils font d'abord la racine, développent la rosace, et puis après, ils vont démarrer une belle floraison un peu plus tard. À part s'ils sont vraiment forts, ils peuvent quand même fleurir la première année, mais en général, c'est
d'accord.
Plutôt.
Ouais. Ah, d'accord. Ah, ben, c'est très bien. Alors, je vais aller me chercher ce semis, parce que ça m'énerve autrement.
Alors, bons achats à vous, Lucienne.
Voilà,
et un bon week-end.
Bon week-end, Lucienne. Et on a également le SMS hein, comme moyen de contact que vous pouvez utiliser ce matin, tout comme l'a fait Baptiste. Il nous pose la question suivante. J'aimerais niveler mon verger. Est-ce que je dois d'abord enlever l'herbe avant de rajouter de la terre?
Donc, effectivement, s'il veut niveler son jardin, il faut déjà sa surface, il faut déjà voir la surface importante qu'il a à faire ou pas. Ça dépend la population aussi, enfin le type de population de mauvaises herbes qu'il a. Mais ce qu'on peut faire, si on veut partir sur des bases saines, effectivement, on peut désherber avec un produit. On peut désherber en mettant peut-être une bâche au sol pour faire mourir ce qu'il y a dessous. On peut labourer ça pour mettre la partie verte en bas, les racines l'air, donc ce qu'on appelle un engrais vert, et puis après rapporter la terre et puis démarrer tout ça. Donc il y a deux, trois façons qui se proposent, et puis selon ses convictions peut-être qu'il peut adopter pour corriger ses surfaces, mais ça va toujours de pair aussi avec la surface, parce que si on a 10 mètres carrés à corriger, ou bien si on a 500 mètres carrés, on va peut-être pas adopter la même façon de travailler. Après on a une mécanisation qui peut aussi nous faciliter ce genre de travail par rapport à ces deux, trois techniques qu'on vient de parler.
Et justement, c'est quand même un travail assez, assez conséquent hein, de faire ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez par rapport à la mécanisation?
Moi, déjà, peut-être voir par rapport à la grandeur de la surface, aux accès, au type de terrain, au type de mauvaises herbes qu'il a de présent, peut-être faire le point peut-être avec quelqu'un, un professionnel pour voir quelles sont les techniques qui s'offrent à lui pour avoir le résultat qu'il souhaite obtenir, parce qu'il a un objectif et puis expliquer cet objectif qu'il veut comme ça, en connaissance de cause, en ayant une observation faite sur le terrain puis connaissant les objectifs de cette personne, on peut lui conseiller le meilleur chemin à suivre, ou bien lui proposer une ou deux variantes.
Merci beaucoup Fabrice pour toutes ces réponses. On rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h et plusieurs moyens s'offrent à vous pour nous contacter.
Il y a le numéro de téléphone 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Tout à l'heure, après une pause musicale, inforoute et météo, nous serons avec Daniel de Fontenay qui nous a appelé, qui a une question pour vous, Fabrice Rondet. Il y a aussi le SMS au 939, vous tapez le mot jardin, un espace, puis votre question. Et il y a bien sûr le formulaire internet que vous trouvez sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
De retour dans les jardinières, le samedi matin, on se prépare à jardiner. Et ce matin, c'est Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy, qui est avec nous jusqu'à 8h. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Les jardinières, c'est votre émission. Si vous avez des questions au sujet de vos plantes intérieures et extérieures, de vos arbustes, de vos fraisiers, de vos pelouses, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'occasion de discuter directement avec notre paysagiste Fabrice Rondet. On lira également toutes vos questions reçues par SMS. Il vous suffit d'indiquer le mot « jardin », un espace, puis votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939. Et sur notre site, vous trouvez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet « émission questions aux jardinières ». Si vous choisissez de nous écrire, n'hésitez pas à donner le plus de détails possible afin d'obtenir une réponse vraiment complète. Et pour tout complément, il y a toujours le numéro de téléphone 0901 70 20 20. C'est ce qu'a composé Daniel de Fontenay qui est avec nous. Il a une question pour vous, Fabrice. Bonjour, Daniel.
Oui.
Bonjour.
Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Très bien, merci. Très bien. Vous aussi?
Très bien. Oui, ça va très bien. J'ai une question. J'ai un Juperinus d'environ 35 ans et les épinglettes sèchent. Déjà l'année passée et cette année elle se sèche encore plus. Il y a juste le bout des branches qui est encore vert. Alors j'aimerais savoir s'il y a un remède ou s'il faut le couper.
Alors, qu'est-ce que vous avez comme type de Juniperus? C'est une plante colonnaire ou bien c'est un Juniperus plutôt tapissant?
Tapissant.
Un tapissant. Et puis, il a donc, il est planté dans un petit talus.
Exactement.
Et puis, vous apportez un peu de l'engrais de temps en temps.
Alors, justement, j'ai commencé cette année parce que, en fait, je ne pensais pas qu'il fallait les.
Apporter un engrais, une nourriture, ouais.
Voilà.
Ouais. Ce qui se passe,
alors
c'est que
j'en ai mis cette année.
Ouais. Alors ce qui se passe effectivement, c'est que les plantes, au bout d'un certain temps, comme 35 ans, comme vous dites, c'est pareil pour les gazons, pour toutes les plantes. À un moment donné, ils puissent toujours la même nourriture dans les sols et les sols commencent à s'appauvrir un petit peu. Donc de les nourrir, c'est déjà un premier pas.
D'accord.
Maintenant, quand vous parlez de dessèchement de la plante, c'est le cœur de la plante, c'est la.
Non, c'est
général. C'est d'une façon générale.
Oui, c'est une façon générale. Il est pas complètement jaune, si vous voulez. Il est jaune et vert. Et le bout des branches est vert,
ouais.
Donc ça pousse encore.
Mais c'est les parties les plus vieilles qui sont en dégénérescence.
Exactement.
Ouais. Oui. Donc ce qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir peut-être une plante 35 ans quand même, qui a un bel âge. On a un terrain qui s'est appauvri, et puis si on a aussi, on tient compte un petit peu de la modification de notre climat ces derniers temps, c'est qu'on a des périodes de stress ou c'est qu'on a des périodes au niveau de la plante par rapport à comme ces dernières années où c'est qu'on a juin, juillet jusqu'à septembre, octobre, voire novembre, sans trop d'eau. Donc s'il est planté en talus, voilà, on a une plante, l'eau, elle cherche quand même à descendre le talus.
D'accord.
Donc on va peut-être avoir un petit manque d'eau, ça va mettre peut-être en stress cette plante. Donc si on a une plante qui vieillit, qui se fatigue et puis qui subit des stress comme ça, donc justement ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va peut-être se dégarnir dans les parties des branches les plus anciennes pour après, quand elle croît une plante, elle croît toujours par ses extrémités. Donc c'est normal que les parties jeunes soient dans la périphérie de cette plante. Donc ce qu'on peut faire, c'est un petit peu la tailler pour l'empêcher de progresser et puis contenir cette végétation dans un certain volume et puis de retrouver un équilibre entre la masse racinaire, l'apport d'engrais qu'on fait, l'eau que vous apporteriez et puis justement ce renouvellement de la plante. Après, ce qu'il est possible de faire aussi pour apporter de la matière nutritive un petit peu puis pour garder la fraîcheur du terrain dans le talus si vous pouvez, c'est mettre peut-être un compost en place, mais un vieux compost que vous pourriez prendre dans votre commune Et puis mettre un petit surfaçage sur 4-5 cm. Donc ça va garder une fraîcheur, une humidité au niveau des sols. Et d'accord. Puis en même temps, il va apporter aussi des nutriments. Donc, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que la plante, à partir d'un certain âge, elle va commencer aussi à faiblir.
Oui, oui, bien sûr.
Ouais.
Très bien.
Donc sans la voir, c'est ce que je pourrais vous dire de plus logique.
Merci Daniel.
Oui, d'accord. Donc je n'ai pratiquement jamais apporté d'engrais. Donc c'est peut-être aussi une des raisons. Donc avant de le couper, je vais peut-être
essayer. Alors l'engrais, faites attention, donc apportez de l'engrais jusqu'à maintenant. N'apportez plus d'engrais à partir de juin-juillet parce qu'il ne faut pas exciter trop la végétation. Il faut que le bois ait le temps de se lignifier sur la dernière partie de l'année, pas qu'après sur un coup de froid hâtif, on ait un gel. Ouais. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est contrôler justement par un compost cette fraîcheur au niveau du terrain, cette humidité, pour que la plante ait tous les éléments nécessaires pour bien croître.
Parfait. Je vous remercie.
Excellente journée, Daniel.
De rien. Bonne journée.
Merci à vous aussi. Merci.
Et on peut aussi nous contacter via SMS, comme l'a fait cet auditeur. Il nous pose la question suivante, Fabrice. Mes plantes aromatiques, thym, origan, romarin, sont comme attaquées. Elles ont les feuilles blanches, comme traversées par de minuscules bêtes, et paraissent un peu fanées. Alors, que faire pour les rattraper ? Fabrice, vous avez une petite idée ?
Alors, je suis un peu perplexe parce que les feuilles blanches, en général, on pourrait imaginer une maladie, ou alors on pourrait imaginer aussi un parasite du style puceron la Niger ou la cochenille farineuse, des choses comme ça. Après, percer, donc on se dirigerait plutôt de nouveau vers un ravageur. Après, les plantes qui ont les extrémités qui flétrissent, donc on pourrait imaginer peut-être si c'est une nouvelle plantation pour ces plantes aromatiques, ce qui est le cas pour la plupart d'entre nous qui sont remis au jardin ces derniers week-ends. Donc on pourrait peut-être avoir un petit choc de plantation, un petit manque d'eau, et puis ce qui pourrait expliquer cette petite faiblesse. Donc moi, peut-être pour vérifier tout ça, ce que je ferais pour vérifier si c'est une maladie ou un parasite, pour être bien sûr, c'est de prendre peut-être une ou deux petites pousses, de vite aller voir chez un revendeur régional pour montrer ou comparer ou aller voir sur internet par les photos qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce qu'il a exactement, pour après, ben, si c'est une maladie, acheter quelque chose de fongique contre cette maladie, et puis vice-versa, si c'est un parasite, d'acheter le produit qui correspond au problème qu'il rencontre, parce que ce ne sera pas la même réactivité, voire il ne peut rien faire du tout si on se trompait.
Christine a une question pour vous, Fabrice. Pourquoi sa plante Clivia ne fleurit plus depuis 3 ans ?
Alors, en général, c'est de nouveau un problème d'énergie qu'on a. Donc, elle pourrait manquer probablement au niveau des nutriments. Où tout d'un coup elle a reçu un changement, luminosité. Moi je pense peut-être que de regarder au niveau du terrain où c'est qu'elle puisse sa nourriture, peut-être pour l'enrichir un petit peu, pour favoriser cette floraison. Je pense que ça doit peut-être tenir à ça.
Merci Fabrice de répondre à toutes nos questions jusqu'à 8h. Vous pouvez nous contacter encore pendant un petit quart d'heure au 0901 70 20 20. Ça, c'est pour parler en direct avec Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy. Il y a également la version SMS. Vous notez le mot jardin, un espace et votre question, ainsi que le formulaire.
7h, 8h, les jardinières.
Soline de la Sagne nous a envoyé un formulaire avec une question pour vous, Fabrice Rondet. J'ai un bananier qui fait plein de feuilles, mais qui grandit pas beaucoup en hauteur. Est-ce à cause de la mauvaise terre ?
Alors, déjà, la première question que j'aurais à poser, c'est si c'est un bananier qui est planté en extérieur ou s'il est planté dans un jardin d'hiver, dans un pot. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, c'est vrai que dans les deux cas, le terrain a une importance considérable. Si c'était en extérieur, c'est vrai qu'ils aiment un climat plutôt chaud. Donc, j'avais fait la connaissance de quelqu'un qui avait des bananiers, qui avait construit des structures autour. Ces bananiers arrivent à une hauteur de 4 à 5 mètres de hauteur dans la région. Par contre, si on les a plantés directement comme ça dans le sol, dans notre jardin, en général, on a des bananiers qui oscillent entre 60 et 80 cm et 1 mètre, 1 mètre 50. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle entend par plein de feuilles et puis quelle hauteur. Donc, c'est assez relatif. Après, effectivement, au niveau du terrain, si on est dans un terrain qui est adéquat, il va prendre vite un petit peu de la hauteur pour arriver autour de ces 1 mètre 50. Mais si on est dans un terrain qui est un petit peu argileux, il va être asphyxiant. Les échanges au niveau de la nourriture, de l'eau vont se faire plus mal. Donc, pour la plante, ça va démarrer un petit peu plus lentement. Donc, forcément, on a une plante qui va faire peut-être plus de la feuille, mais elle va moins s'allonger. Donc, effectivement, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être creuser une poche de plantation et puis changer la terre pour lui mettre un terrain à disposition qui lui convienne, qui soit drainant, qui se réchauffe et puis un petit peu plus riche pour que ça se passe bien. Contrôler aussi les apports d'eau. Elle peut l'aider en mettant deux arroseurs de temps en temps quand on a des périodes un peu plus sèches ou de bis qui sèchent le terrain. Et puis après, là, les choses devraient évoluer.
Donc, on parle d'un bananier qui est planté en terre à l'extérieur.
Oui.
Moi, je ne savais pas qu'on pouvait planter des bananiers à l'extérieur. Je pensais que ça se plantait uniquement en pot.
Non, c'est assez courant. On le voit assez volontiers dans toute la région. Peut-être pas aux Franches-Montagnes. Mais en tout cas, en Ajoie, dans la vallée, on en a plusieurs exemples où c'est que ça fonctionne très bien.
On a une question de Virginie de Porrentruy qui nous dit qu'elle a énormément de mauvaises herbes dans son gazon avec de grosses racines. Comment est-ce qu'elle peut s'en débarrasser le plus simplement sans utiliser de désherbants toxiques ?
Alors le problème qu'il y a, c'est qu'on a plusieurs façons pour aller de l'avant. Donc moi, je vais quand même parler des désherbants. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler de toutes les étapes par lesquelles il faudrait passer en fait pour que le gazon il se réveille et puis il soit réactif et aille dans le bon sens. Après, cette personne, par rapport à ça et ses convictions, elle choisira les méthodes qu'elle veut obtenir ou pas. Donc la première des choses, le gazon, ce qu'il faudrait faire, c'est pas le tondre trop bas. Il faudrait le tondre entre 4-5 cm au plus bas et puis 8-10 au plus haut pour déjà favoriser la graminée de notre mélange et puis faire un pas en arrière à toutes les mauvaises herbes. Ça, c'est déjà la première des choses. Après, elle peut pratiquer un arrosage. Après, on a des apports d'engrais qu'on peut faire entre 3 et 4 passages par année pour nourrir notre gazon. Plus notre gazon va être nourri, plus il va s'étoffer, moins il y aura de la place pour les mauvaises herbes. Et puis, plus un terrain est riche, plus les fleurs font un pas en arrière. Et puis, les petites fleurs, en fait, ce sont nos mauvaises herbes. Donc, on le constate dans les champs aussi. Puis après, pour les familles les plus récalcitrantes, là, on a pas tellement le choix. Une fois qu'on a parlé tonte et puis qu'on a parlé engrais, on n'a pas tellement le choix que d'éradiquer ça par l'apport d'un traitement d'herbicide sélectif pour viser à détruire les familles qu'on ne voudrait plus voir apparaître, mais les faire partir autrement que cela d'une façon sûre, c'est guère possible. Si elle a un nouveau gazon puis qu'il n'y a que quelques mauvaises herbes, elle peut encore, avec la pointe d'un couteau, aller les déloger. Mais si c'est un gazon qui est ancien puis qu'on a, je sais pas, 10-20% des surfaces qui sont envahies par la mauvaise herbe, j'imagine très mal de y aller d'une façon mécanique comme celle-là.
On a Christophe qui nous a envoyé un SMS. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un gommier ou d'un pommier ? Est-ce que le gommier existe ?
Alors, le gommier, c'est un ficus qu'on retrouve dans nos appartements. Puis le pommier, ben, tout le monde le connaît.
Alors, il y a une question par rapport au gommier qui prend beaucoup d'ampleur. Est-ce qu'il peut le couper ?
Oui, ça peut se tailler, effectivement. Il ne sera pas surpris parce que quand on taille un gommier, on a un latex qui coule, qui fait un peu peur, qui peut prendre un certain temps de stopper cette coulée de sève. Et puis après, il faut le pincer d'une façon assez régulière. Ce qu'il peut même s'amuser à faire, c'est la partie qu'il a coupée, la plonger dans un terreau humide avec comme une espèce de petite cloche, une petite serre qu'il va poser dessus pour essayer de refaire une bouture ou dans un verre d'eau et puis redémarrer une nouvelle plante.
On a une question de Martine de Corneau qui nous demande si on peut récolter des melons dans la région.
Oui, alors il y a aussi là plusieurs personnes qui plantent régulièrement du melon. Alors il y en a qui le mettent directement en plein air comme ça. Et là, c'est un petit peu plus longuet. Mais si vous avez la possibilité de le mettre dans une petite serre comme ça, vous allez réchauffer un peu plus la terre. Vous allez avoir plus de réactivité au niveau de la croissance, donc au niveau de la fructification aussi.
On a reçu une question de Manon de Reconvillé qui a planté il y a un mois des plants de tomates. Ils grandissent bien, mais sur certaines feuilles, des petites taches apparaissent des deux côtés. Les tiges n'ont pas l'air atteintes, mais elle ne sait pas à quoi cela est dû. Est-ce que vous pouvez l'aider ?
Alors, ils sont sûrement peut-être plantés en plein air. Donc avec la pluie et tout ça, ben forcément on a des maladies qui peuvent se développer. Tout le monde le sait que la tomate c'est une plante quand même qui est assez sensible. Donc après, si elles sont plantées sous des abris, quand elles arrosent, ce qu'il faudrait faire c'est arroser au pied, puis en tout cas pas mouiller le feuillage. Donc maintenant par rapport à ces feuilles, le plus simple c'est d'identifier le problème, peut-être d'aller voir sur un moteur de recherche maladie des tomates et puis comparer ou aller voir dans un centre de vente et puis prendre le produit qui correspond à l'attaque qu'elle a. Mais il faudrait éviter en tout cas de les mouiller, d'arroser le feuillage. Ça, c'est important. Puis s'ils sont en plein air, peut-être songer à mettre un petit abri en place.
Et n'hésitez pas à nous tenir au courant de l'évolution de vos jardins. Vous qui nous posez des questions, si vous avez d'autres problèmes, évidemment, Fabrice pourra vous aider. Fabrice, on arrive bientôt en fin d'émission. Aujourd'hui, on annonce 27 degrés en pleine. Qu'est-ce que vous conseillez de faire au jardin en ce moment ? Qu'est-ce qui est indispensable à planter ou peut-être tout simplement se relaxer ?
Eh bien, on a le jardin potager. On a, pour la plupart d'entre nous, depuis de nombreux mois, attendu cet instant avec impatience. Donc, profitons-en. Après, ben, pour ceux qui l'ont fait, ben, il y a le désherbage qui est la partie la plus rébarbative de l'histoire. Donc, toujours sarcler pour favoriser justement un terrain qui ne dessèche pas trop, qui garde un maximum l'humidité et puis qui soit toujours propre, ça fait toujours plaisir. Mm-hmm. Bah après, tondre un petit coup le gazon, par un temps sec comme ça, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Et puis après, ben, comme l'a dit Stéphanie, profiter de cette belle journée.
Pour le gazon, est-ce qu'il faut l'arroser vu qu'il y a ces chaleurs quand même ou bien...
Ben, pour l'instant, peut-être pas tout de suite parce qu'on a eu 2-3 pluies assez abondantes dans la plupart des régions ici. C'était des orages locaux, mais on a quand même des terrains qui sont un petit peu mouillés, humides en profondeur. Donc ça va encore, mais effectivement, si ça devait persister sans pluie, avec peut-être un petit peu des courants de bise ou du vent qui dessèche, d'arroser un petit peu avec les apports d'engrais pour ceux qui entretiennent, ne fera pas de mal.
Il va donc être 8 heures d'ici quelques minutes. Les jardinières, c'est fini pour aujourd'hui. Vous voilà fin prêt pour entamer votre session jardinage et peut-être profiter de la fraîcheur du matin. Merci beaucoup Fabrice Rondet d'avoir répondu à toutes les questions des auditeurs. Belle journée et à très vite.
Une belle journée à vous aussi, un bon week-end.
Les jardinières reviennent la semaine prochaine, mais pas la peine d'attendre jusqu'à samedi pour poser vos questions. Vous pouvez le faire dès maintenant par SMS au 939 ou grâce au formulaire présent sur nos sites. Vos questions seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, profitez bien.
7h, 8h, les jardinières.